6h03, jeudi 13 décembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est un matin froid, c'est sûr. On a moins 15, moins 16 degrés. Sans doute, c'est encore plus froid en périphérie de Montréal. Ciel dégagé, c'est du soleil pour aujourd'hui. Quelques nuages en mi-journée, avec un maximum prévu autour de moins 7 degrés. Le refroidissement éolien, ce matin, autour de moins 22. Donc, c'est vous dire à quel point c'est froid. Pour ce soir et cette nuit, nuageux, faible neige intermittente qui va commencer au cours de la nuit. Il y a un risque de bruine verglaçante la nuit prochaine. Température à la hausse pour atteindre moins 3. Et finalement, vendredi, faible neige intermittente, un peu de bruine, peut-être de la bruine verglaçante demain matin. Et le maximum prévu, toujours 3 degrés. Et l'aperçu pour le week-end jusqu'ici, ça peut évidemment changer. On parle de soleil pour les deux jours. Température autour du point de congélation entre 0 et 2 degrés. Commençons ce matin d'abord par l'arrestation d'un deuxième Canadien en Chine. Donc, après l'ex-diplomate Michael Kovrig, c'est un consultant qui s'appelle Michael Spavor qui a été arrêté. On présume qu'il a été arrêté au début de la semaine. C'est quelqu'un qui organise des excursions touristiques en Corée du Nord. C'est lui, entre autres, qui avait organisé ce fameux voyage avec la vedette de tennis, Dennis Rodman. Et on voit avec Rodman, photo aussi avec Kim Jong-un. Donc, les dernières choses qu'on sait sur lui, c'est qu'il devait quitter la Chine pour se rendre justement en Corée du Nord. Et il ne s'est jamais rendu à destination. Alors, la Chine réagit officiellement. Alors qu'on déclare que ces deux Canadiens ont bel et bien été arrêtés par les autorités chinoises et qu'ils sont les deux considérés comme des individus se livrant à des activités menaçant la sécurité nationale. Alors, ça c'est le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a tenu ces propos. On sait que tout ça n'est pas une coïncidence. Là, ça arrive alors que le Canada procédait à l'arrestation de l'héritière de la compagnie du géant de technologie Huawei, qui a été remise en liberté avec caution. Elle est également surveillée. La Chine ne le prend pas. Le président Trump a même laissé sous-entendre qu'il pourrait intervenir dans le dossier si jamais ça permettait de régler un accord commercial avec les Chinois. Le Canada rappelait à M. Trump que, autrement dit, mêlez-vous de vos affaires parce que c'est la loi qui s'applique, point. Et je rappelle que cette Chinoise a été appréhendée à Vancouver à la demande des autorités américaines. Alors, on est un peu dans ce jeu de la diplomatie et jeu de pression. La Chine qui avait promis des réprimandes au Canada, ben ça se traduit par l'arrestation de deux ressortissants canadiens en Chine. Et hier, l'ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, disait « ça peut être très, très long. Il y a des cas de gens qui ont été arrêtés » qui ont été détenus pendant 2 ans dans des conditions, évidemment, qui sont misérables. Alors voilà pour ce premier volet ce matin. Parlons aussi un peu d'économie. Deux nouvelles. D'abord, hier, ça a été confirmé. C'est Via Rail qui donne le contrat pour les wagons de train à la compagnie Siemens, compagnie européenne. Et il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, Bombardier l'a échappé. Et je me fais au propos du président de Via Rail, il y a trois critères, tu sais, la capacité de livrer, la qualité puis le prix. Puis dans les trois cas, Bombardier, c'est pas démarqué, c'est pas distingué. La deuxième chose, on comprend que légalement, il n'y a pas d'obligation d'avoir un pourcentage de contenu canadien. Et tout ça, c'est dans le cadre de ces accords de libre-échange, ces accords commerciaux, qui permettent à Bombardier d'aller décrocher des contrats à l'extérieur. Il y a des dispositions qui sont précises, mais dans le cas d'un transporteur, l'entente est claire. Le Canada accepte ça. Moi, j'ai de la misère, personnellement, avec ce type de disposition. D'abord, parce que les autres pays se gênent pas pour favoriser l'achat local ou des garanties avec un pourcentage minimal. On le voit régulièrement aux États-Unis. Les États-Unis ont une attitude beaucoup plus protectionniste que nous, ce qui ne les empêche pas d'aller chercher des contrats à l'extérieur. Évidemment, c'est une plus grande puissance, mais comment peut-on accepter de mettre 1 milliard sur la table sans qu'il y ait un sou qui soit prévu pour du contenu canadien. Tout ça va se faire par une compagnie européenne dans des usines en Californie. Puis là, il y aura probablement quelques grenailles là, dans la périphérie. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand même assez... Ce serait pas insultant, il ne faut pas charrier, mais tu t'attends à, quand on met autant d'argent, qu'il y ait un minimum de retombées, ce qui n'empêche pas de donner le contrat principal à une entreprise extérieure. Et deuxième chose, on en a parlé avec Pierre-Yves, SNC-Lavalin, qui est peut-être menacé d'être acheté justement par une firme étrangère. Et c'est pour ça, entre autres, que la Caisse de dépôt a décidé d'augmenter sa mise. Et là, on est rendu depuis le printemps, il y a eu des achats de blocs massifs d'actions. Et c'était autour d'environ 20 %. Alors, est-ce que la Caisse pourrait bloquer une transaction? Parce que c'est pas banal, là. Et SNC-Lavalin, je comprends, a été dans la tourmente de plusieurs scandales. L'est encore, là, avec ses fameuses façons de faire en Libye et la GRC qui enquête. On ne veut pas régler. Et si la compagnie est condamnée, ben, ça veut dire incapable d'avoir des contrats pendant des années au Canada. Et on comprend qu'il y a eu toute une pratique. D'ailleurs, l'ancien PDG est encore devant les tribunaux dans le scandale du CUSUM. Là. Il y a des têtes qui ont roulé, mais il en reste encore qui sont devant la justice. Pas n'importe quelle, c'est le PDG de l'époque. Mais il faut reconnaître que ça affecte une entreprise qui est un géant quand même, avec une qualité d'employé. Si ton boss est un bandit, c'est pas, ça t'empêche pas d'être quelqu'un qui est un professionnel. Et combien j'ai reçu de courriels d'ingénieurs de SNC-Lavalin qui me disaient « Pourriez-vous le dire de temps en temps qu'on fait une bonne job? C'est pas de notre faute si nos patrons se sont comportés comme des bandits à bien des égards. » Alors voilà pour ce qui est, si vous voulez, des nouvelles économiques de ce matin. On va aller retrouver Marc pour voir un peu comment se passe le début de journée. Merci beaucoup. Petite parenthèse au sujet de District 31. On en a parlé hier matin. C'est une coïncidence. On recevait deux acteurs de la série, Gilda Roy et Patrice Godin. Et puis, est arrivé ce communiqué d'un groupe communautaire qui reproche la façon de faire dans District 31, dans les épisodes actuels là, qui concernent cette femme qui est porteuse du VIH, son mari qui a été contaminé alors qu'il y a eu des relations avec elle sans le savoir, qui a été blessé aussi. Donc, c'est un mélange de violence conjugale et de contamination. Et dans la série, il y a deux choses. D'abord, il y a une enquête policière et on présente cette femme-là qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes sans les prévenir, sans les avertir, comme une espèce de tueuse en série potentielle, un. Et deux, on explique qu'on va aller chercher l'info chez le médecin. Alors là, on dit que c'est de la désinformation, que c'est pas vrai, puis qu'on vient renforcer les préjugés, les stéréotypes sur les gens qui sont porteurs du VIH. Deux, trois choses à dire là-dessus. D'abord, j'ai parlé à l'auteur, Luc Dionne, là, et des gens qui ont été condamnés pour avoir eu des rapports sexuels non protégés alors qu'ils étaient porteurs de la maladie, ça a donné lieu à des sentences. OK? Là, ce matin, on est en train de nous dire, puis avec tout le respect, là, que on peut informer notre partenaire, mais que si la maladie est traitée, la charge virale n'est peut-être pas assez forte. Voyez-vous expliquer ça à votre partenaire, là, en disant, écoute, j'ai le VIH, mais ma charge virale n'est pas forte, fait qu'on peut avoir une relation peut-être non protégée. Je peux-tu que ça te refroidisse un peu? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les policiers peuvent, dans ces cas-là, aller chercher des mandats et obtenir des informations médicales parce que c'est un geste illégal d'avoir des rapports sexuels non protégés. Je comprends là, qu'on peut me sortir de la jurisprudence, mais en bout de ligne, c'est une dramatique, c'est une fiction. C'est pas un documentaire, c'est pas une émission d'affaires publiques. Et je comprends là, qu'il y en a qui réagissent à ça, là, puis... Mais tu sais, il faudrait quand même pas charrier puis demander que quoi. Parce que là, je vous le dis, là, vous allez scandaliser épisode après épisode, puis les groupes de pression, évidemment, s'accrochent beaucoup au succès d'une série comme District 31. Mais moi, j'ai vu ça, là, des policiers aller chercher des mandats pour obtenir des informations médicales. Puis j'ai vu des causes. Je me souviens d'un gars, j'oublie le nom, là, mais d'un gars qui a fait plusieurs victimes, c'est-à-dire qui a contaminé plusieurs femmes. parce qu'il y avait un diagnostic, puis il voulait se venger. C'est arrivé, ça. C'est pas de la fiction. Et Luc, d'ailleurs, me disait, dans le cas de la série, il s'est inspiré d'une histoire vraie qui s'était produite dans la région de Trois-Rivières. Ensuite, dans les autres nouvelles, je sais pas si vous avez vu cette femme de 62 ans qui a été condamnée pour avoir tenu des propos haineux à l'endroit des musulmans. Elle s'appelle Françoise Giroux et écrivait dans ses moments d'ennui des commentaires donc violents sur les musulmans dans des forums européens. Évidemment, c'était pas son vrai nom. Et elle ne croyait pas que ce serait lu ici. Elle se faisait surnommer sur ces réseaux-là, ces forums, Frank Giroux. Et les policiers ont finalement pu la localiser. Et là, je vous fais grâce des commentaires qu'elle pouvait tenir là-dessus en disant qu'il faut exterminer les musulmans, il faut gazer les musulmans. Un petit vol en rase-motte et tout sera réglé rapidement. Écrit dans un français impeccable. Hier, on l'a vu quitter, là, après avoir eu la sentence, qui est une absolution inconditionnelle et également une amende, puis des travaux communautaires exécutés. Dame très chic, qui travaillait comme secrétaire médicale. Et donc, elle était à l'hôpital. Et les médias, il paraît qu'elle trouvait ça plate. Alors, elle se livrait à ce genre d'activité. Parlons maintenant des chiffres concernant l'hospitalisation due à la surconsommation d'opioïdes sous toutes ses formes. C'est une crise au Canada, d'abord, mais beaucoup moins grande au Québec. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Et de toutes les villes québécoises, c'est la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a le taux le plus élevé d'intoxication. Ça, ce sont les chiffres de l'Institut canadien d'information sur la santé. Et c'est beaucoup plus élevé dans les villes canadiennes de taille moyenne que dans une grande ville comme Montréal, alors qu'on pourrait facilement penser le contraire. Et on se demande comment ça peut s'expliquer. Toutes sortes de raisons. L'accès aux services est peut-être plus facile dans les grandes villes. Il y a aussi des programmes ciblés. Il y a peut-être une prise de conscience plus élevée, alors que dans des villes de taille moyenne, c'est peut-être pas le cas. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que le phénomène est grave, là. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui meurent, fentanyl, mais d'autres types aussi de surconsommation. Et même si ça n'a pas l'ampleur qu'on voit, par exemple, en Colombie-Britannique, au Québec, c'est un problème de santé publique qui est extrêmement préoccupant. Il y a des choses intéressantes ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu hier, on a vu ces médecins, principalement à Québec, mais qui disent, parler pas mal au nom de leurs collègues, qui ont de la difficulté à assurer les soins palliatifs. Des médecins qui vieillissent, peu de jeunes médecins, semble-t-il, intéressés, ce qui fait que les médecins qui se sont spécialisés donc pour accompagner les patients mourants trouvent que c'est de plus en plus exigeant et la conséquence, c'est que la qualité de service, de l'offre de service baisse, si vous voulez. Et ça arrive au moment où il y a eu ce débat dans les tribunaux, qui a été tassé rapidement, mais quand même, où des gens disent que l'aide médicale à mourir serait moins en demande si les services de soins palliatifs étaient mieux organisés à travers le Québec. Et là, on a des chiffres ce matin dans Le Devoir où on compare l'évolution de l'aide médicale à mourir 3 ans après l'adoption de la loi. Et ce qu'on constate, c'est que c'est hautement inégal à travers le Québec. D'une région à l'autre, ça varie. Une demande sur 3 ne se réalise pas. Ça, c'est pour le Québec. C'est la moitié des demandes qui ne sont pas remplies dans la région de Laval, Lanaudière, un peu dans une moindre mesure Montréal. Et savez-vous pourquoi? Puis on a eu un cas ici dont on s'est occupé. C'est que souvent, la personne qui fait la demande se heurte à la machine. Des gens qui ne veulent pas, peut-être pour des raisons, je dirais, de valeur, de conviction, là. Ils sont contre ça, puis peut-être qu'ils ne veulent pas trop aider. On a eu un cas ici, là. Heureusement, il y a des médecins qui nous ont dit, écoutez, adressez-vous à telle personne. Mais tu sais, quand tu es malade, quand tu es la personne qui demande l'aide, tu sais pas, tu vas demander ça à ton médecin. Ouais, tu sais, tu vas faire une requête, puis là, ça traîne. Puis peut-être que c'est pas la bonne personne, puis bon. Alors, c'est pas toujours simple. Et je sais que dans des hôpitaux, il y a encore, semble-t-il, de la résistance. Et on le voit que la proportion d'aide médicale à mourir non administrée est très forte dans les régions de Laval et de Lanaudière. On a vu des requêtes échouer dans des proportions de 53 et de 46 %. Et ce qu'on remarque, c'est une hausse importante de la demande et aussi donc le volume d'équipes capables de donner suite à la demande. Puis là, je ne vous parlerai pas de tout le débat sur la loi fédérale, sur le jugement de la Cour, sur la loi québécoise, mais ce que ça dit encore 3 ans plus tard, c'est que ça demeure difficile. Et aussi dans Le Devoir ce matin, on cite une étude américaine. C'est pas une énorme surprise, on s'en doutait, mais semble-t-il que c'est assez bien documenté. Si on faisait commencer les cours à l'école plus tard chez les ados, ça pourrait améliorer le rendement scolaire. Alors, l'étude, ce que ça nous montre, là, c'est qu'on a décidé de déplacer l'heure du début des classes au secondaire de 1 heure, environ, là, 55 minutes. Et le début, donc, des cours a été repoussé de 7h50 à 8h45 pour permettre aux élèves de dormir plus longtemps. Alors, ils se lèvent plus tard, mais ils ne se couchent pas nécessairement plus tard. Conséquence, ils dorment plus longtemps. Ils sont plus reposés. Et ce qu'on remarque, deux phénomènes, c'est que les notes sont meilleures. C'est une augmentation de presque 5 % des notes. Et également, beaucoup moins d'absence, beaucoup moins de retard. Alors, il y a une plus grande fidélité au cours. Tout ça parce que les ados ont besoin de dormir. Puis même s'ils dorment un peu plus longtemps, puis ils sont en meilleure forme quand ils arrivent à l'école, selon la science et les calculs qui ont été faits, ils dorment autour de 7 heures dans une nuit, alors que pour un ado, ça devrait être quelque part entre 8 et 10 heures. Alors, peut-être qu'ils dorment longtemps à la fin de semaine, mais quand c'est le temps pour la semaine, ils ont de la difficulté à ajuster l'heure du coucher et l'heure pour se lever. Alors, dans Le Devoir, vous allez retrouver ça ce matin. Hier, on parlait beaucoup de profilage racial. La police de Repentigny et 3 de ses policiers qui ont fait l'objet d'une plainte et la Commission des droits de la personne qui a décidé d'imposer une amende de 42 000 $ amende avec dommage, donc, suite à un incident qui implique deux jeunes noirs qui se disaient profilés, et la commission leur a donné raison. Alors, ça fait pas mal le tour de nos manchettes de ce matin. Il est 6h22. Je rappelle qu'on reçoit un peu plus tard le premier ministre du Québec, François Legault. On commence notre survol par Repentigny.